C'est donc dans le chapitre 5, la première épître de Timothée, je crois qu'on a fini quand même. C'était déjà des exhortations, chapitre 4. Et alors là, c'est encore, chapitre 5, c'est encore des exhortations, un petit peu, disons, pour différents sujets, mais qui concernent la vie de la vie d'une personne normale, d'une famille normale. Nous sommes dans une famille, on voit bien qu'il y a des vieux, il y a des jeunes, il y a des hommes, il y a des femmes, etc. Il y a différentes natures, on peut dire, natures qui sont rassemblées et qui sont appelées à progresser dans la nature de fils de Dieu. Ainsi, il y a toutes ces exhortations. Alors nous commençons ici au chapitre 5, qui dit « Ne réprimande pas rudement le vieillard ». Donc, il y a des réprimandes, puisque c'est, il parle à Timothée, il donne des conseils pour la direction d'une assemblée, pour, il a un ministère, il a la version don, on l'avait vu cela dans le chapitre précédent, on l'a même reçu par prophétie, et avec l'imposition des mains des anciens, il avait reçu, en somme, une responsabilité, une tâche pour cette assemblée. Donc, il fallait qu'il puisse aussi réprimander quand c'était nécessaire de réprimander. Puisque, comme Frère Bonham l'a souvent dit, l'amour est correctif. Donc, c'est par amour, il faut qu'on puisse comprendre. C'est pour, par amour. Mais il dit, pour les vieillards même, oui, mais ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Donc, il y a, vous voyez, quand même, il y a des fils qui peuvent exhorter les pères, d'après ce que dit l'Écriture. Pas seulement les pères qui doivent exhorter les fils, mais ça peut arriver, puisque c'est écrit. Il vient exhorte-le comme un père. C'est un vieillard, mais que tu le considères, peut-être pas ta famille directe, mais considère-le et respecte-le quand même comme un père. Donc il doit y avoir un certain respect qui, disons, naturel, qui n'existe plus d'ailleurs. Dans le monde, on n'a plus le respect de personne. Dans le monde, c'est ça, c'est pour ça qu'on fait toutes sortes de choses. On peut tromper les gens, on peut voler, tuer, sans arrière-pensée, sans penser qu'il y a quand même à respecter les autres, et d'autant plus, disons, si c'est dans sa famille. Mais donc, ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères. Donc, même si c'est des jeunes que tu dois exhorter, eh bien, exhorte-les, n'oublie pas que ce sont des frères. Que dans cette famille, eh bien, c'est pas des dominateurs, non, c'est pas une domination. Comme le prince de ce monde aime dominer, frapper, diriger avec rudesse. Non, il y a, c'est vrai, s'il y a des exhortations à faire, pour que ce soit aussi pour les jeunes, exhorte donc les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères. Donc encore, je vous ai dit, hein, il veut donner des conseil à tous les, pour tous les, pour tous les âges. Il a commencé par le vieillard, après il a parlé des jeunes gens, maintenant il revient, il parle des personnes, des femmes âgées, il faut les exhorter comme des mères, celles qui sont jeunes, comme des sœurs, en toute pureté. Donc, aussi dans l'exhortation vis-à-vis des sœurs, il doit avoir un respect comme étant des sœurs. Je veux dire que c'est quand même une famille, et dans une famille, il doit y avoir une atmosphère plus particulière qu'à l'égard du monde, quand même. Disons, il doit y avoir une meilleure communion, un meilleur contact. Il devrait y avoir dans les familles un meilleur contact que ce qu'on peut avoir dans le monde. Quelquefois, on dit, c'est vrai, c'est plus facile de se comporter bien avec des étrangers qu'avec ceux de la famille. Pourquoi? Parce que on est tout le temps en train de se voir et on finit par, je sais pas, perdre un petit peu une certaine retenue, un certain respect. Mais il y a quand même une relation qu'on peut pas expliquer, mais qui fait qu'on est né d'un même Seigneur. On est des frères et sœurs. On était rachetés tous au même prix. Amen. Donc, il n'y a pas de domination particulière, ni avec les vieux, ni avec les jeunes, ni avec les jeunes filles. Donc, mais il dit bien, donc, honore donc les femmes âgées, et puis après, celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté. Ça veut dire que c'est vrai, surtout pour un serviteur de Dieu, parce que là, il parle d'abord à un serviteur de Dieu, à Timothée, il doit prendre garde de pas, parce que les jeunes filles, elles peuvent s'attacher à leur pasteur, comme ça, d'une mauvaise manière. Il peut y avoir, je sais pas, hein, deviennent amoureuses, disons, amoureuses du pasteur. Amoureuse et ancienne, ça, c'est pas bon. Donc, il faut qu'elle garde donc cette position que le serviteur lui-même garde bien cette position, que nous sommes dans une famille et que nous ne sommes pas là pour faire comme le monde. Honore les veuves qui sont véritablement veuves. Si il va expliquer un peu plus loin, il va dire ce qu'il veut dire, veuves qui sont véritablement veuves. Je peux déjà le dire tout de suite. C'est celles qui n'ont pas de soutien, qui n'ont pas de frères et sœurs dans l'assemblée, ils n'ont pas de parents qui sont dans la foi. Alors, elles sont vraiment veuves, hein. Quand elles sont veuves, elles n'ont pas de soutien. Et il y avait, pour les veuves, il y avait dans les premières églises, et comme on le trouve encore en Afrique, beaucoup plus facilement que chez nous, mais en Afrique, disons, ça se fait naturellement, les personnes, les veuves, l'Assemblée, elle va les soutenir. Il n'y a pas besoin de faire des discussions, c'est comme ça, hein. Mais alors, il montre bien là, il y a des veuves qui sont véritablement veuves, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de soutien de la part de la famille. Comme il dit ici, si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Donc, s'il y a des enfants, des petits-enfants, et que ce sont des personnes qui sont croyantes, c'est ceux-là qui doivent prendre soin des veuves. Donc ça, c'est pas des... Elles sont veuves, mais elles ont quand même un soutien. Il va parler des vrais, ceux qui sont vraiment veuves. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas de soutien. C'est celles-là qui étaient soutenues par les assemblées. Celles-là. Mais celles qui avaient des enfants ou des petits-enfants, pour les soutenir, ils n'étaient pas... Ils n'étaient pas exhortés à le faire. Donc, pour ce qui est donc des enfants, des petits-enfants, c'est aussi une exhortation d'exercer, il le dit, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille. On a déjà vu le mot pieux là, on a déjà vu que le mot pieux, ça veut dire avoir un attachement. Un fervent attachement au service de Dieu et pour le devoir et les pratiques de la foi, de ceux qui sont dans la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Donc, il parle à ce sujet, justement, à l'égard des soins qu'on devrait porter à des personnes et quand elles sont âgées, eh bien, que s'il y a des enfants croyants, il faut qu'ils s'occupent quand même d'elles. Et puis alors, ensuite, il va plus loin, il dit, celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée toute seule, met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Il parle d'une veuve, c'est une qui a vraiment perdu ou qui n'a pas de contact avec ses enfants, qui ne sont pas dans la foi. Et alors, elle-même, elle est consacrée à la prière, aux supplications. Elle intercède pour le corps de Christ. Et c'est tout ce qu'elle peut faire, peut-être. Et alors, évidemment, c'est des personnes-là qu'il faut pouvoir soutenir, que l'Assemblée puisse les soutenir. Mais il dit, mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante, déclare-leur ces choses afin qu'elles soient irréprochables. Et un peu plus loin, il va revenir sur ce sujet, mais je continue comme c'est écrit. Si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Voilà. Bon, il y a des personnes qui prennent ce passage pour nous accuser, nous, les serviteurs de Dieu, de ne pas prendre soin de notre famille. Ça arrive, il y en a qui nous accusent. Mais il y a quand même des gens, si on a un ministère, un service, évidemment que on est plus occupé. Je veux dire que c'est quand même une famille plus étendue, si je veux dire, qui fait que quand même ça nous prend quelqu'un qui n'a pas cette charge, il a plus de temps pour sa propre famille. C'est pour ça que ici, l'apôtre Paul, il parle à Timothée pour bien montrer. C'est vrai parce que, c'est vrai, il y a des gens qui nous ont eu accusés de cela et qui prennent ces passages-là pour dire, si quelqu'un n'a pas soin des siens, ben, ça dépend quel soin on a des siens, je veux dire. Les soins, premièrement, les soins qu'on doit avoir pour sa famille, c'est de leur enseigner la crainte de l'Éternel et de mettre son espérance dans le Seigneur, d'apprendre, quand on a des problèmes, d'apprendre à rechercher la face de Dieu et le secours de Dieu. Ça, il faut apprendre cela à sa famille. Et ils comprendront bien que si on doit s'occuper de certaines personnes, eh ben, on ne les néglige pas. Mais premièrement, pour sa famille, c'est vrai, on doit prendre soin de sa famille, de les mettre dans la bonne voie. Et ensuite, bon, ben, s'ils ne veulent pas la suivre, ça c'est leur affaire. Mais d'abord, on leur montre quelle est la bonne voie. Parce qu'il dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Si c'est vrai, si un croyant ne prend pas soin vraiment de sa famille, alors c'est sûr qu'il n'est pas dans la foi. Et c'est dans du fanatisme, peut-être. C'est du fanatisme religieux. Il y a une différence quand même, mais si quelqu'un est vraiment dans la foi, dans le Seigneur Jésus-Christ, il ne peut pas négliger sa famille. De toute façon, il va toujours prier, il va toujours garder le contact, mais il ne va pas négliger. Ayant une responsabilité à l'égard des autres membres du corps qui sont dans le besoin, il va s'en occuper aussi. Voilà. Bon, c'est une exhortation qui est faite, parce que on doit aussi veiller à ne pas exagérer dans ce sens-là. Qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, parce qu'il y a un rôle Quand il parle d'un rôle, il parle de ceux qui sont soutenus. C'est dans ce sens-là, pour être inscrit sur le rôle de ceux qu'on doit donner, soutenir chaque mois, je sais pas, m'en payer leur loyer ou je sais pas quoi. Eh ben, mais il dit bien qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, il n'y en a pas moins de 60 ans qu'elle ait été femme d'un seul mari, qu'elle soit appliquée à toute bonne œuvre, ayant été élevée des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les malheureux, pratiqué toute espèce de bonnes œuvres. Mais je pense bien que, on voit bien que quand il dit, il faut pas la recevoir comme, disons, soutenir une veuve qui est jeune. Il va dire, les jeunes doivent se marier. Mais quand elle a 60 ans, c'est une personne qui a donné des preuves. Alors, on peut voir si elle a donné des preuves, si elle a porté des fruits. Alors, à ce moment-là, ben, en retour, c'est comme pour vos parents. Quand ils viennent vieux, ma foi, ils peuvent plus faire ce qu'ils faisaient avant. C'est à vous de le faire. Les parents, c'est d'abord les parents qui vous ont soutenu, qui vous ont donné à manger, et qui vous ont soutenu de différentes manières. Et puis, maintenant, quand ils sont trop vieux, ah ben, c'est les enfants qui peuvent le faire. Parce que les vieux ne peuvent plus, tout simplement. Mais il donne donc cet exemple pour les veuves. Donc, elle était appliquée à toute bonne œuvre. Ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les malheureux, pratiqué toute espèce de bonnes œuvres. Mais refuse les jeunes veuves, car lorsque la volupté les détache de Christ, elles veulent se marier. Parce que vous comprenez bien que quand une était reçue, si je peux dire, sur le rôle, quand on la considérait comme une veuve de l'assemblée soutenue, c'est une femme qui priait, c'est une femme qui intercédait, et c'est une personne déjà âgée. Et alors, pour être inscrite sur le rôle, il dit bien, il faut pas prendre les jeunes parce que les jeunes, eh bien, au bout d'un moment de deuil, elles veulent se remarier, c'est normal. Donc, c'est pour ça que l'apôtre Paul lui-même leur dit, mais oui, non, moi je veux qu'elles se marient, hein, les jeunes. Parce que qu'est-ce qui va arriver? Il dit des choses pratiques, on a nous-mêmes fait l'expérience que c'est bien comme ça que ça arrive. Elles courent partout, commencent à parler un peu partout, à se mêler des affaires des autres, et puis boum boum, hein, ça fait des ravages. Mais écoutez ce qu'il dit. Donc refuse des jeunes veuves, car lorsque la volupté les détache de Christ, c'est-à-dire que elle commence à, elle ne pense plus au Seigneur, elle pense à trouver, hein, à voir quel garçon, quel homme, ce qui pourrait, ensemble, hein, voilà, commence à regarder aux hommes, parce qu'ils sont trop jeunes, ils sont pas. Mais après 60 ans, eh bien, je crois qu'une femme qui a atteint 60 ans, représentez-vous, c'est pas de notre jour, de nos jours, une femme de 60 ans est encore jeune. Mais quand il parle de ça, vous savez, une femme de 60 ans, autrefois, ben, c'est une femme déjà usée. Ouais. De nos jours, une femme de 60 ans d'autrefois, elle peut arriver à 80 ans. Hein. À ce moment-là, elle est vraiment usée à 80 ans. Et puis encore, vous les voyez, ces femmes, elles sont tellement bien pomponnées que moi, je suis étonné des fois. On dit, mais moi j'ai 84, moi j'ai. Je dis, c'est pas vrai. Et vous la voyez courir comme ça. Alors, voilà, mais parce qu'on a quand même un âge où on a le plus de facilité. Autrefois, la vie était beaucoup plus dure. Donc, ils se rendent coupables à ce qu'elles violent leur premier engagement. Donc, les femmes, tout en étant acceptées sur le rôle, elles prenaient en somme un engagement d'être au service, de prier, d'intercéder, d'aider, enfin, faire tout leur possible pour l'œuvre de Dieu. Avec cela étant oisives, elles apprennent à aller de maison en maison, et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Donc vous savez ce que ça veut dire, intrigante, c'est-à-dire qu'elles veulent diriger les autres. Je dis, oh, mais tu dois faire comme ci, mais fais comme ci, et fais comme ça. Ben, puis, voilà. Au lieu de leur donner les bons conseils, ils parlent de jeunes veuves. Tandis que les personnes âgées sont déjà quand même normalement plus mûres et peuvent donner des bons conseils aux jeunes. C'est vrai. Donc, non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas, ne faut pas dire. Je veux donc que les jeunes ne se... Il faut que je me mette ici. Je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire. C'est l'apôtre Paul qui dit cela, mais c'est inspiré par le Saint-Esprit. Nous pouvons comprendre que c'est comme ça, c'est juste. Les jeunes, eh bien, peuvent encore se marier, avoir des enfants, et bien s'occuper de leur maison, et de leur mari. Bon, c'est évidemment que le monde actuellement est à l'envers, et les femmes ne vivent pas normalement. Donc, qu'elles soient mariées ou pas mariées, elles sont dans la même voie maintenant. Mais pour les croyants, ça c'est la voie qui devrait être suivi par les croyants. Car déjà, quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan, donc des jeunes veuves. Si quelque fidèle homme ou femme a des veuves, qu'il les assiste et que l'Église n'en soit point chargée afin qu'elle puisse assister celles qui sont véritablement veuves. Donc, il insiste sur ces points-là. Il a montré quand même, il y a une ordonnance à garder à cet égard. On ne peut pas prendre n'importe quel genre. Moi, je ne veux plus me marier. Moi. Alors, elle a peut-être 30 ans, puis elle est encore jeune. Mais non, elle a encore 30 ans au moins avant de pouvoir devenir une veuve. De pouvoir assister, d'être dans cette catégorie. Parce que quand même, autrefois aussi, il faut dire que ces veuves, elles avaient une grande part à l'intercession. Et vraiment, comme il a dit ici, elles peuvent prier jour et nuit. Elles sont beaucoup plus libres. Elles ont cette liberté à tout moment. Elles peuvent intervenir pour des problèmes qu'il y a. Et quand on sait qu'il y a dans l'assemblée quelque chose, on peut leur dire, eh bien, écoutez, il y a tel et tel. Et comme ce sont des personnes quand même qui sont stables, des personnes qui ont plus de 60 ans, ce n'est pas des personnes qui vont barjaquer un petit peu partout, c'est des personnes qui vont vraiment prendre à cœur leur responsabilité pour intercéder. Donc il y a une bénédiction pour l'assemblée. C'est-à-dire que les veuves, eh bien, elles sont quand même un pilier, si je peux dire, un soutien pour la prière, pour plusieurs qui sont dans le besoin de l'assemblée. Elles sont là, elles participent encore à cette communion. Peut-être qu'elles ne peuvent même plus aller dans les assemblées, mais elles sont là toujours en train d'intercéder. Si quelques fidèles, je reprends encore une fois, hommes ou femmes à Divav, qu'ils les assistent et que l'Église n'en soit point chargée, afin qu'elle puisse assister celles qui sont véritablement veuves. Donc celles qui ont plus de 60 ans. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Alors là, quand il dit qu'il faut trouver digne d'un double honneur, c'est un petit peu difficile de dire. Qu'est-ce qui vous dit un double honneur? Est-ce que c'est un double honneur matériel? Ceux qui dirigent bien, évidemment, on ne va pas leur donner. Vous savez que dans le monde, il y a des mauvais directeurs, on leur donne un parachute doré. Je ne sais pas ce qu'il veut dire, mais quand même, il dit, mais s'ils travaillent bien, mais il faut aussi leur donner, il faut leur donner un peu plus, quoi. Avoir plus d'honneur. Déjà, le respect, certainement, et la reconnaissance, certainement. Mais c'est possible que ça veut aussi dire qu'il y a un soutien qu'il faut accorder puisqu'ils font un bon travail. Donc, les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit, tu ne museleras point le bœuf quand il foule le grain et l'ouvrier mérite son salaire. Donc, c'est un rapport quand même avec ce qu'il mange, avec son salaire. Lui, ici, l'apôtre Paul, il le met en rapport, le double honneur, il le met en rapport avec un salaire. L'ouvrier mérite son salaire. Il dit, tu ne mesureras point le bœuf quand il foule du grain. C'est-à-dire, le bœuf qui est en train de fouler le grain, on ne va pas lui mettre une muselière pour l'empêcher de manger. Alors que vous savez là comment ils vont. Ils vont, eh bien, ils se baissent comme ça, puis ils ramassent le blé. Ah ben, est-ce qu'on va les empêcher de manger le blé quand ils sont en train de tirer, de fouler? Fouler. C'est-à-dire qu'on mettait les blés quand ils étaient coupés, on mettait un endroit et on venait avec des traîneaux qui étaient traînés par des bœufs pour faire sortir les grains. Alors, tout en faisant ce travail, ils étaient là sur l'air, eh ben, ils mangeaient. C'était écrit dans la loi. Ça veut dire que, bon, mais puisqu'ils travaillent à vous faire, ils travaillent pour que vous ayez du blé, ne les empêchez pas d'en manger. Donc, c'est bien un rapport, comme je disais tout à l'heure, avec le salaire que l'apôtre Paul a voulu parler. Il faut avoir un double honneur. Tu ne mesureras point de bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Ne reçois point d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de deux ou de trois témoins. Donc, Timothée était comme un évêque, si vous voulez. Il était là pour veiller sur les assemblées, était envoyé par l'apôtre Paul, c'est une assemblée qui avait été créée, et pour les diriger à faire ce qui était bien. Donc, s'il y a des accusations qui venaient contre un ancien, eh bien, il dit bien, il faut qu'il y ait au moins deux ou trois témoins. Pas un seul qui vient parler contre, mais qu'il y ait des témoignages, que ce soit vraiment établi correctement, s'ils ont fauté ou pas. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, donc ceux dont on a le témoignage véritable, de plusieurs qui ont vraiment fauté, ils ont péché dans ce sens-là, ils ont péché contre le comportement qu'ils devaient avoir dans l'assemblée, puisque les anciens ont une responsabilité pour que le troupeau puisse être nourri, que le troupeau puisse progresser, et qu'il y ait la paix, et ils ont différentes tâches, eh bien, s'ils ont péché, s'ils sont coupables, eh bien, reprends-les. Il dit bien, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Je te conjure, devant Dieu, devant Jésus-Christ, et devant les saints, les anges élus, d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire par faveur. Donc, pas de favoritisme, non, mais qu'il y ait de la justice, que ce Timothée puisse vraiment prendre soin dans le corps de Christ pour que les choses soient correctement faites et pas du favoritisme pour certains. Mais il faut observer ces choses sans prévention, de ne rien faire par faveur. Verset 22, n'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. Donc, n'impose les mains à personne avec précipitation. Donc, je pense que là, c'est pour bien montrer que si on impose les mains à quelqu'un, il faut quand même le questionner un peu sur le sujet. Pourquoi est-ce qu'il veut l'imposition des mains? Donc, il y en a qui viennent au dernier moment, imposez-moi les mains, mais il faudra avoir du temps quand même pour parler un petit peu avec eux et voir si vraiment ils comprennent, s'il n'y a pas autre chose, pour qu'ils puissent quand même obtenir la guérison, si c'est pour la guérison, peut-être ils ont des problèmes à mettre en ordre. Hein. C'est pour ça qu'il dit, n'impose pas les mains n'impose les mains à personne avec précipitation. Donc, te laisse pas précipiter. Oui, on va prier pour toi, mais qu'est-ce qu'il y a? Bon, il faut disons un petit peu l'interroger pour savoir si vraiment on peut y aller, et s'ils sont dans la foi, ou bien s'imaginent certaines choses, donc pas correctement dans la foi. Parce que si on impose les mains, c'est pour que la personne reçoive le bénéfice de l'œuvre de Jésus-Christ. C'est pour que la personne, est-ce qu'elle croit, est-ce qu'elle réalise que le Seigneur a souffert pour elle, est-ce que vraiment il s'est déchargé de tout ce qui est de séparer. Il n'y a rien qui le sépare, il n'y a pas un péché, une erreur, quelque chose qu'il a fait qui n'est pas juste. Alors il faut qu'il corrige avant de le faire. Donc imposer les mains à la hâte, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc, ça, il parle pour une église. Pour une église. C'est pas comme, disons, dans des réunions d'évangélisation où les gens vont venir pour qu'on prie pour eux. Là, on peut pas faire comme ça. Quoique, il y en a qui prennent le temps pour questionner un petit peu les gens aussi. Mais enfin, surtout, dans les assemblées, il faut que la chose soit faite correctement. Donc, ne pas imposer avec précipitation les mains. Et dire, ne participe pas au péché d'autrui. Parce que si en somme, même là, dans ce cas particulier, si quelqu'un a péché et que tu n'as pas parlé avec lui pour lui dire, mais ce que tu as fait, c'était pas juste, il faut d'abord que tu mettes ça en ordre. Et puis, tu lui imposes les mains comme ça. Alors, c'est comme si toi, tu participes à sa position de péché. Il faut donc, et s'il a péché, il faut qu'il puisse reconnaître et rejeter ces choses-là. Alors, on peut lui imposer les mains. Mais alors, on lui impose parce qu'on l'a conduit, on lui a montré que là, il avait fait une erreur et qu'il fallait qu'il se repente à l'égard du Seigneur. Alors, il peut profiter, bénéficier de l'œuvre de Golgotha, du sacrifice du Seigneur. Donc, il y a une importance. Dans cette parole, il y a quand même une bonne, il y a un bon enseignement pour ce que nous devons faire en faveur des personnes qui demandent l'imposition des mains dans l'Assemblée. Ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Donc, c'est une exhortation parce que certainement que l'apôtre Paul, comme lui-même il l'avait dit, si c'est une cause de chute pour quelqu'un, je ne mangerai pas de viande, je ne boirai pas de vin, il l'avait dit lui-même. Si c'est une cause de chute, il préférait certainement que lui ne buvait pas de vin, l'apôtre Paul. Mais dans cette occasion, ici, il peut dire à Timothée, ben, toi, tu as besoin de boire un peu de vin, parce que tu as ceci, tu as cela, et un peu de vin, ça te fera du bien. Donc, même si lui-même, l'apôtre Paul n'était pas un homme qui buvait, en tout cas, il n'était pas un homme qui allait se livrer de vin. C'est certain. Et là, il ne demande pas à Timothée de commencer à se livrer de vin. Non, c'est dans les Colossiens, sauf erreur, que l'apôtre Paul dit, ne vous enivrez pas, mais soyez ivres du Saint-Esprit. Il n'a pas le même mot d'ivresse, mais par le Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit, ivres du Saint-Esprit. C'est une autre chose. Hein? Donc là, c'est un conseil qu'il donne. Je sais bien qu'il y a des personnes qui vont prendre ce passage parce qu'elles voudraient boire à tout prix. Elles ne devraient pas boire. Mais elle dit, ah, mais vous voyez, l'apôtre Paul a dit, on doit boire un peu. Hein. Mais le peu, ils ne savent pas la différence entre un peu et puis trop. C'est seulement une excuse. Donc, ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Les péchés de certains hommes sont manifestes même avant qu'on les juge, tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. Je m'arrête ici. Donc c'est clair, il y a des péchés, il y a des comportements qui sont vite repérés. Il y a des comportements que c'est clair que ce comportement c'est faux. Un péché c'est quelque chose qui est faux. Donc, il y a des comportements qui sont faux. Donc, il dit bien, c'est ça qu'il veut dire. Il y en a qui sont manifestes même avant qu'on les juge, c'est-à-dire avant qu'on les ait examinés. Parce que juger, c'est examiner. Quand il parle de juger, ça veut dire, on examine les choses pour voir si c'est comme ça, si c'est pas comme ça. Si c'est bien ça ou pas. Hein? Mais il y en a qui sont tellement manifestes, tu n'as même pas besoin de juger, que c'est déjà clair, c'est faux. Hein. Et mais il y en a d'autres, comme il dit, tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite, dans le temps à venir, c'est là que leur péché, leur faute se découvre. De même, les bonnes œuvres sont manifestes. Donc, c'est vrai que peut-être là aussi il y a des bonnes œuvres qui ne sont pas vues tout de suite, hein? Je pense que ça peut arriver aussi, mais de toute façon si quelqu'un il accomplit des bonnes œuvres, ça va bien porter du fruit un moment, ça va bien ressortir à un certain moment, ça vous pouvez être sûr. Donc il dit les bonnes œuvres sont manifestes, celles qui ne le sont pas, ne peuvent rester cachés. C'est ce qu'il dit lui-même. L'apôtre Paul dit cela, que de toute façon, si ce n'est pas visible, si c'est un temps où personne ne voit les bonnes œuvres, un jour, elles ne vont pas rester cachées. Et le Seigneur donnera lui-même la louange pour ceux qui ont vraiment accompli les choses comme elles devaient être faites, les œuvres qui étaient possibles de faire. Que le Seigneur soit béni pour cela. Je m'en vais m'arrêter ici parce que c'est la fin de ce chapitre. Je ne veux pas aller plus loin pour aujourd'hui. Nous allons incliner nos têtes et prier le Seigneur pour que vous venez vous lever. Bon, devons-nous? D'accord.